Ensemble sur Calad.
Du lundi au vendredi, de 12h12 à 13h, en direct sur Calad.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Ensemble sur Calad, votre rendez-vous quotidien autour du Beaujolais et de ce qui s'y passe de beau. Nous sommes le vendredi 19 novembre 2021, il ne fait pas très beau de beau jeu à Neuville-sur-Saône. Il fait froid, en plus de ça, heureusement qu'il se passe de belles choses dans cette émission. Notamment le passage de notre prof Patrick qui nous a préparé je ne sais quelle rubrique surprise aujourd'hui. Et Pitch, notre disquaire de l'Underground Store à Villefranche en fin d'heure pour sa sélection d'albums hebdomadaires. Avant ça, rencontre aujourd'hui avec notre invité du jour. Des rencontres, lui, il en a fait pas mal. On reçoit aujourd'hui Jérémy Fischer, historien, archiviste. En 2019, il part en voyage et plutôt que d'aller passer deux semaines au camping des Flots Bleus, lui, il part 15 mois dans 15 pays différents. Il parcourt plus de 115 000 kilomètres. Il aime bien le chiffre 15. Il fait une large partie de ce voyage en autostop. Sur la route, il tient un journal de bord et à son retour, il a écrit un livre, le journal d'un autostoppeur autour du monde qui retrace cette belle aventure faite de nombreuses rencontres. Alors comment est-ce qu'un archiviste que j'aurais plutôt tendance à imaginer entre deux étagères dans une bibliothèque, comment est-ce qu'il a vu le monde, comment est-ce qu'il l'a découvert, qu'est-ce qui l'a attiré dans cette aventure et ce voyage et qu'est-ce qu'il en a ramené, c'est ce qu'on va se demander aujourd'hui dans cette émission avec donc notre invité Jérémy Fischer. Un peu de musique tout d'abord pour nous mettre en jambe du monde tout autour. On écoute Louise Attaque. Nous sommes ensemble sur Clad, il est 12h15. Merci d'être avec nous.
Là, une flamme jaillit et résiste au temps. Une étincelle brise, soulève, être vivant. Une brindille violette. Thank you.
Louise Attaque sur Calade avec leur titre Du monde tout autour.
Ensemble sur Calade.
Allez, du monde, il en a vu, c'est notre invité du jour, Jérémy Fischer. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez nous présenter, entre autres, le livre que vous avez publié, Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde, qui retrace un voyage de 15 mois dans 15 pays différents. Avant d'en parler, on va essayer de mieux vous connaître. Vous êtes, vous venez d'Alsace.
C'est ça.
Vous êtes archiviste. Ça veut dire quoi ? C'est quoi un archiviste ?
Qu'est-ce qu'un archiviste ? C'est un monsieur ou une dame, souvent des dames d'ailleurs, qui est passionné d'histoire et qui est là pour collecter les documents, ouais. Les conserver, les classer et les transmettre à son tour aux chercheurs, notamment, mais ça peut être aussi aux usagers,
ouais.
Pour pouvoir faire des recherches et connaître un peu mieux notre passé.
Est-ce que c'est la même chose qu'historien ?
Ah, pas du tout. L'historien ouais. travaille grâce à l'archiviste. Sans archiviste, pas d'historien. L'archiviste met à disposition des documents pour que l'historien puisse s'en saisir et puisse écrire l'histoire.
D'accord.
L'historien est un bénéficie du travail de l'archiviste et l'archiviste est un passeur de documents.
Et vous, vous faites un peu les deux, si j'ai bien compris.
Alors, j'ai une formation d'historien à la base, effectivement, et c'est un des débouchés de devenir archiviste. Alors, voilà, beaucoup d'archivistes sont historiens,
ouais.
Mais l'inverse n'est pas vrai, pas forcément.
Beaucoup d'historiens ne sont pas archivistes, d'accord. Vous êtes parti en 2019 sur un voyage, un sacré voyage.
Ouais.
Ça vient d'où, cette idée ? Enfin, moi, j'ai vraiment ce stéréotype archiviste. Je vous imagine dans des archives avec plein de documents enfermés. Et là, vous partez vraiment à l'aventure.
Vous faites bien de le dire, c'est un cliché, c'est un stéréotype. Ouais. Il faudrait rencontrer plus d'archivistes. Ce sont des gens, dans la plupart du temps, très sympathiques, très ouverts sur le monde, ouais. très curieux.
Ouais.
Et je pense que c'est cette curiosité qui fait que, on peut retrouver un archiviste qui fait le tour du monde. C'est pas du tout incompatible. Au contraire.
Et l'idée, elle est venue d'où ?
Alors, elle est venue de loin. J'ai toujours eu l'envie de faire un voyage au long cours.
Ouais.
J'ai été inspiré par plusieurs, que ce soit des livres, des films, donc j'avais cette envie-là. Et puis, il a fallu attendre le bon moment dans ma carrière pour me dire, ça y est, c'est le moment opportun, je peux techniquement le faire.
Ouais.
Donc ça a pris un peu de temps, mais effectivement, vous l'avez dit, en février 2019, j'ai eu un alignement de planètes. D'autant que j'avais l'idée de faire un voyage de 15 mois, avec comme finalité quand même indirecte de terminer le voyage au Canada.
D'accord.
Et de m'installer un an là-bas. J'avais le permis vacances-travail qui me permettait d'y travailler. Et donc mon projet, c'était de voyager un an,
ouais.
Un an et demi, de découvrir le Canada au cours de ce voyage et de revenir après au Canada
pour
m'y installer un an. Ce qui n'a pas été possible à cause du Covid.
Et oui, parce que du coup, vous êtes parti février 2019, vous êtes arrivé mi-2020 en pleine crise sanitaire, c'est ça ?
C'est ça, sur la fin de mon voyage, les deux dernières étapes, c'était la Nouvelle-Zélande et l'Australie, on a commencé à en parler. J'ai encore fait du stop en Australie en mars 2020, alors que j'avais des nouvelles de France qui parlaient de confinement et que tout le monde était confiné.
Ouais.
Et moi, je faisais encore du stop en me questionnant sur l'avenir de mon voyage. Alors, c'était la dernière étape. Hein.
Mm-hmm.
L'Australie, j'avais prévu 3 mois de tour de l'Australie en autostop. Et finalement, j'ai pu voyager 3 semaines.
Jusqu'au bout ?
Et du coup, non, pas jusqu'au bout. Hein. J'ai fait un très court parcours et
ouais.
ça a été arrêté au tout début. Et je me suis confiné chez des gens qui m'ont pris en autostop.
D'accord.
Ce qui témoigne aussi d'une bienveillance assez extraordinaire, d'une solidarité, puisque j'ai été hébergé pendant 6 semaines chez des gens qui m'ont mis à disposition une chambre, un ordinateur et qui m'ont dit écoute, on serre les coudes et tu restes autant que tu veux. Quoi.
On se confine ensemble.
Exactement.
Avant de parler de ces fameuses rencontres, et je pense que de la solidarité, vous en avez vu beaucoup dans votre voyage. Comment ça se prépare parce avant de partir, j'imagine qu'il y a du boulot. Vous avez dit que vous avez dû attendre que les planètes s'alignent.
Ouais.
Vous l'avez en tête depuis un moment. Et...
Oui, alors il y a plusieurs éléments qui m'ont permis de partir. Il fallait déjà administrativement, vu que je suis fonctionnaire, avoir une mise en disponibilité. Donc l'administration qui me dit, vous pouvez y aller, vous n'êtes plus dans les effectifs. Donc il a fallu trouver ce moment-là. Et ce moment-là a été déclenché quand j'ai eu la réponse du visa en question canadien, qui m'a dit, vous avez été tiré au sort, vous pouvez aller bénéficier de ce visa. Donc tout ça s'est enclenché. Et puis après, ça s'est fait rapidement. La dédite de l'appartement où j'étais locataire, faire, la vente de mes meubles pour me délester au maximum et cofinancer le voyage aller, puisque j'avais pas de retour, j'ai acheté les billets au compte-gouttes. Et puis des vaccins aussi, ouais. J'ai fait pas mal de vaccins, ce genre de choses. Et puis acheter un sac à dos, sélectionner le principal des affaires à emmener, hein, parce ouais. que c'est un choix. Quand on part 15 mois, de quoi aurais-je besoin ?
Et vous aviez juste un sac à dos ?
Oui, alors j'ai acheté un sac à dos qui me permettait de voyager avec 50 litres. À peu près 15 kilos, ce qui était déjà beaucoup,
ouais.
Je trouve. En fait, on a toujours tendance à remplir. Donc voilà, l'idée, c'est d'avoir un sac pas trop conséquent. Et c'est vrai qu'au cours du voyage, on nous offre des choses, on en perd d'autres. On m'a par exemple offert une tente au Canada. Ça a été un des plus beaux cadeaux qu'on m'ait fait. Jeff, qui m'a avancé de 150 kilomètres au Canada, m'a dit à la fin de la route, il m'a dit, bah, écoute, j'ai l'impression que tu as besoin d'une tente. Il s'avère que j'en ai une dans ma cave. C'est une tente officielle des sapeurs-pompiers de Colombie-Britannique. Donc une tente, une place qui est vraiment de très bonne qualité.
Ouais.
Et il m'a dit, je pense que tu en auras besoin pour le reste du voyage. Je te l'offre, je ne l'utilise plus. Et ça a été vraiment un super cadeau. Et après ça, j'ai pu faire du camping sauvage dans tous les pays où j'ai été. Et sans plus me soucier d'où j'irai dormir. Parce que en cas de coup dur, ben, tu plantes la tente n'importe où et c'est bon, tu repars le lendemain.
Dans la préparation, vous m'avez pas parlé d'itinéraire, de destination.
Si, c'est vrai, bien vu. Oui, c'est un ami à moi, Nicolas, qui m'avait dit, écoute, si tu pars, pourquoi pas faire un mois par pays, parce que ça laisse vraiment l'opportunité de se dépayser et de s'imprégner vraiment de la culture, de rencontrer des gens, plutôt qu'une semaine ou deux. Et l'idée m'a bien plu et je me suis dit, tiens, j'ai à peu près 15 mois avant d'entrer sur le territoire du Canada pour m'y installer. Pourquoi pas 15 pays en 15 mois ? Après, le choix était assez facile. J'aime beaucoup les pays anglo-saxons. Donc voilà, Canada, je voulais découvrir. Les États-Unis, c'est tellement vaste. J'avais plein de choses à revoir. L'Australie et la Nouvelle-Zélande. Après, vu qu'on était en février, donc il faisait froid, j'ai eu envie d'aller au soleil.
Ouais.
Et donc la première destination, ça a été la Thaïlande, où il faisait très beau. Et donc le choix des pays, ça a été des envies de longtemps et puis des idées qui m'ont été soumises par des amis au cours des discussions des années précédentes. Mmh. Et voilà, j'ai sélectionné comme ça les 15 pays et l'Amérique latine aussi en faisait partie. Donc voilà, ça s'est fait comme ça. Et l'ordre des pays s'est décidé en fonction des saisons.
Ouais.
Et aussi pour prendre le moins l'avion possible. Voilà. Une fois que j'atteins un continent, j'explore ce que j'ai envie d'explorer. Après, je reprends l'avion pour aller plus loin et traverser les océans. Mais voilà, globalement, comment ça s'est passé.
Et les moyens de transport, du coup, puisqu'on en parle,
oui.
Vous avez dû prendre l'avion forcément parce que
oui, quand même,
il fallait changer de continent.
Exactement.
Que ça. Mais après, vous avez principalement fait de l'autostop, c'est
exactement.
Ça
alors de l'autostop, mais aussi du scooter stop, du tuk tuk stop, du tok tok stop,
ouais.
Du camion stop. Et effectivement, dans l'une de mes conférences, je développe un peu cet aspect rigolo du stop, c'est qu'il y a vraiment dès qu'il y a moyen de locomotion, il y a possibilité de faire de l'autostop. J'ai même fait du stop. Et ça a été un des moments les plus fun. J'ai fait de l'autostop dans une voiture qui était tractée sur une remorque d'un camion. Vous savez, les camions qui transportent plusieurs voitures
sur deux
étages. Et ben, j'étais dans la voiture de fond avec trois autres camarades autostoppeurs, des Argentins. Et c'est avec eux que nous avons, fleur au fusil, traversé la frontière. Voilà.
À l'arrière d'une voiture remorquée.
Voilà, donc on roulait à 50 km/h parce qu'il a fallu traverser les montagnes d'Argentine. Et j'étais derrière le volant et puis on regardait le paysage. C'était assez fun.
Ouais.
Et du coup, le chauffeur routier qui était uruguayen nous a déposé à la frontière à Rama. Et on est allé faire nos contrôles chacun de notre côté. Et puis de l'autre côté, on s'est retrouvés et il nous a.
Et vous êtes remontés.
Il nous a repris et on a continué la route. Donc vraiment plein d'anecdotes comme ça dans le livre parce qu'effectivement, il y a énormément de moyens de locomotion et de personnes différentes qui ont, à un moment donné, qui m'ont invité à partager leur route.
Mais quand on fait du stop, on est dépendant des autres. On n'achète pas un billet ou on a un engagement, on va prendre ce de moyens de transport qu'on a payé et on va arriver. On est dépendant des autres, de est-ce qu'ils vont s'arrêter.
Exactement, mais on est aussi dépendant de soi, de quelle est notre motivation, est-ce qu'on a une bonne énergie. Et moi, je dis toujours, ça ne me dérange pas d'attendre une heure ou deux ou plus, tant que ça me permet de rencontrer la bonne personne. la personne avec qui on va avoir une connexion, on va avoir un bon moment et qui va aboutir peut-être même sur une amitié, etc. Et puis c'est vrai que l'autostop permet d'apprendre la patience, ce qui est une notion qu'on oublie, on veut tout de suite arriver, etc. Mais ça fait vraiment partie du voyage et l'attente, c'est aussi un moment de méditation presque. Et ça permet de se connecter vraiment avec l'endroit où on a envie d'aller, la destination. C'est une sorte de magie. Alors ça fonctionne pas toujours, mais mes plus grosses galères, entre guillemets, ont abouti sur de superbes aventures, encore qui sont dans le livre. Et ça me fait toujours sourire parce que oui, on peut voir ça sous l'angle de la galère, alors qu'en fait, moi, je retiens surtout le positif que ça m'a apporté en retour.
Des souvenirs qui marquent. Et du coup, par contre, ça amène à faire des rencontres que vous n'auriez peut-être pas fait si vous n'aviez pas eu cette démarche.
C'est le principe. J'ai rencontré des Amish Mennonites au Canada.
Qu'est-ce que
quatre
c'est?
Quatre jeunes de la vingtaine d'années. J'entre dans la voiture, ils sont tous habillés presque en costard-cravate. Je me suis dit, oulala, c'est bizarre, je monte pas. Et les Amish Mennonites, vous savez, c'est une religion, une secte, vous appelez ça comme vous voulez. Alors, c'est pas des Amish au sens strict. Historiquement, c'était des Amish qui sont devenus Mennonites.
D'accord.
C'était un moment, ça m'a pris du temps de comprendre vraiment, parce que les Amish purs ne prennent pas la voiture, refusent l'électricité, etc. Eux, c'est pas le cas. En revanche, ils ont aussi leur spécificité. Ils prennent pas de photos, par exemple. Et ça, c'est fun. On a passé, du coup, 24 heures ensemble. Et les seules photos qu'ils ont de leurs 3 semaines de vacances, c'est les photos que j'ai prises pendant qu'on a cohabité pendant 24 heures. Et ils étaient ravis d'avoir mes photos. Et c'est les seules photos qu'ils ont ramenées en souvenir.
Mais eux, ils n'ont pas le droit d'en prendre.
Ils ont des smartphones, mais quelqu'un de leur communauté leur enlève le moyen d'aller sur Internet, le moyen de faire ci ou ça. C'est très, très surprenant. Mais voilà, ça, c'est une rencontre que je n'aurais pas pu faire par un autre biais. C'est des gens qui n'écoutent pas de musique. Musique interdite. Je leur ai posé la question, mais vous ne connaissez pas les Beatles, les Stones? Il y en a 2 sur 4 qui connaissaient, et encore, ils ne pouvaient pas citer de chansons, mais ils avaient déjà entendu parler. Donc, il n'y a pas de jugement. C'est juste que, on se rend compte qu'effectivement, je n'aurais pas rencontré ces gens-là. Je n'aurais pas eu cette ouverture sur le monde, parce que ça existe. Il y a des gens comme ça qui ont ces croyances, et grâce au stop j'ai pu les rencontrer, et je les ai revus 3 semaines après aux États-Unis d'où ils étaient originaires, où je leur ai rendu visite à l'improviste, et j'ai été accueilli par toute leur communauté, vraiment quelque chose d'extraordinaire.
Toutes ces rencontres, etc., vous les avez tenues dans un journal que vous teniez presque au jour le jour?
Oui, c'est ça. Voyageant seul, j'avais vraiment le besoin de communiquer régulièrement des nouvelles à ma famille et mes amis. Et donc, effectivement, j'ai écrit un blog quasiment au jour le jour, souvent même dans la voiture, dans la tente, dès que je pouvais. Et je l'ai complété avec des photos, une sélection de photos, voilà, pour qu'on sache où je suis, ce que je fais. Mais c'est ce blog qui a été transformé au retour en livre. J'ai fait une sélection un peu plus stricte des photos. Sur les 5000 que j'ai partagées en ligne, j'en ai gardé 1400, ce qui est pas mal. Et vraiment, pour moi, c'est un hommage aux personnes qui m'ont tendu la main, ouvert la portière, qui m'ont hébergé chez eux. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de portraits dans le livre, parce que j'ai systématiquement pris une photo de toutes les personnes que j'ai rencontrées. Et alors, il y en a 3-4 qui n'ont pas voulu pour des raisons qui leur appartiennent. Et il y en a 4-5 qui n'ont... j'ai eu un souci de téléphone et ça n'a pas pris la photo. Mais globalement, toutes les personnes que j'ai rencontrées sont dans le livre.
Je viens de l'ouvrir, le livre, je viens de l'avoir entre mes mains. Je l'ai feuilleté et les photos, c'est... moi, quand je pars en vacances, je prends des photos des lieux, des endroits, etc. Là, il n'y a que des visages.
Je modère. Hein, vous pouvez aller refeuilleter. Il y a aussi des paysages.
Il y a aussi des paysages.
Mais en tout cas, il y a beaucoup de portraits, mais il y a aussi des paysages. Vous en verrez.
C'est les souvenirs des gens que vous avez ramenés principalement, quand même.
Oui, c'est des rencontres. Vraiment, c'est ce que je retiens. Alors, effectivement, il y a des paysages fantastiques, ça, c'est sûr. Mais c'est vraiment les rencontres qui font le sel de mon voyage, je pense. Ouais.
Ce livre, vous le présentez aussi? Où est-ce qu'on peut vous retrouver pour découvrir ce livre avec vous, tant qu'à faire?
Alors, pour le découvrir avec moi, vous avez 2 possibilités très prochaines. Vous avez le Salon des livres en Beaujolais qui aura lieu à Arnas ce dimanche de 10h à 18h. Donc, vous pourrez m'y rencontrer. Vous pourrez repartir avec l'exemplaire dédicacé. Et on pourra bien sûr échanger sur des anecdotes. Voilà, c'est toujours un moment convivial. Et puis, le samedi 27 novembre, à la librairie des Marais, Voilà, j'y serai présent de 15h à 18h. Et en dehors même de ces deux dates, le livre est disponible à la librairie des Marais, donc, mais également sur mon site internet, où vous pouvez le commander et le recevoir sous 8 jours. Sur mon site internet, donc, www.desracinesalapage.fr.
On retrouve aussi toute votre activité.
Exactement.
Vous êtes récemment devenu biographe.
Exactement, et écrivain biographe depuis le début de l'année.
On se retrouvera peut-être pour en parler un autre jour. En tout cas, moi, je recommande grandement de se pencher sur cette aventure et de se pencher sur ce livre, Journal d'un autostoppeur sur les routes du monde. Merci beaucoup d'être venu nous en
parler.
Merci
à vous, Mathieu.
Jérémy Fischer, je crois que vous êtes passionné de musique également.
Oui, j'adore la musique, le rock en particulier, après le classique aussi. Mais ça a
marqué les étapes de
votre voyage. Oui, complètement. Je suis allé voir le studio où Nirvana a enregistré son troisième album In Utero en 93, et les gens qui m'ont pris en stop, qui habitaient à côté, ne savaient même pas qu'ils habitaient à côté de ce lieu mythique, et donc ils ont fait le détour avec moi pour le voir.
Ouais.
Et voilà, c'est que des aventures comme ça. Et effectivement, la musique a vraiment marqué. J'étais à Duluth, où Bob Dylan est né, Seattle, une grande ville du rock des années 90, San Francisco aussi, avec toute la période hippie. Donc, dans tous les pays, en Australie, je suis aussi allé voir les studios où l'un de mes groupes cultes des années lycée a enregistré ses albums, les Australiens Silverchair.
D'accord.
Voilà, toutes les références musicales qui sont beaucoup dans le rock, mais pas forcément. Alors, musicales, mais également les œuvres, j'aime beaucoup la littérature aussi, le cinéma. Toutes les œuvres sont répertoriées dans un index en fin d'ouvrage, donc vous pouvez retrouver les endroits où j'en parle, en
D'accord.
fonction de vos goûts, et découvrir également la playlist de ce tour du monde.
Et ben, après avoir rencontré l'homme qui a fait le tour du monde, on va écouter l'homme qui a vendu le monde, c'est Nirvana. The Man Who Sold the World. Merci beaucoup, Jérémy Fischer.
Merci.
A vendu le monde, The Man Who Sold the World, Nirvana, qui reprenait bien sûr David Bowie sur Kellad.
L'expansion économique, c'est la richesse de la commune. C'est la mort.
Ensemble sur Kellad.
Le prof Patrick.
Allez, lui, il n'a pas vendu le monde, il parle de ceux qui le vendent. C'est le prof Patrick, bonjour.
Salut Mathieu, salut les auditeurs.
Bon, alors de quoi est-ce que vous nous parlez
aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est formidable, je ne parle pas d'économie. Vous allez pouvoir souffler.
Très bien.
Je vais parler d'autre chose, ça va être une chronique tout à fait particulière qui répond à une sorte de défi que je me suis lancé et de promesses que j'ai faites. Je vais vous parler d'une série animée japonaise qui passe sur Netflix qui s'appelle L'Attaque des Titans.
D'accord.
C'est un des plus grands succès mondiaux de ces 20 dernières années, dans le monde des mangas, ensuite adapté en animé, et c'est visiblement un marqueur très fort des nouvelles générations. Quelque chose leur parle dans cet animé, il s'agit de comprendre quoi. Au départ, en fait, c'est mon fiston qui me met sur la piste. Il me dit, tu devrais regarder L'Attaque des Titans, c'est une série géniale. En effet, mon fiston et moi, on passe notre temps à s'échanger régulièrement ce genre de bons conseils de série à voir. Et il ajoute, bon, faut être patient parce que ça devient vraiment intéressant qu'au bout de quelques épisodes. Je lui dis, ok, combien? Et là, il est très évasif, il me dit, oh, une quinzaine. Bon, c'est des épisodes de 20 minutes. Qu'à cela ne tienne, je me lance. Attention, je vais spoiler à mort dans cette chronique.
D'accord.
C'est comme ça. Le pitch, l'humanité est assiégée par des titans gigantesques. Ils ressemblent à des êtres humains, ils font entre 3 mètres et beaucoup plus. Jusqu'à 15-20 mètres, pense-t-on au départ. Les humains sont retranchés derrière 3 murs de 50 mètres de haut, qui forment 3 cercles concentriques, dont le plus grand est distant au total d'environ 100 km du point de départ. Ces murs les protègent des titans, depuis un siècle apparemment, mais aussi les emprisonnent, évidemment.
Ouais.
Mais voilà, au tout premier épisode, apparaît comme par magie, à l'extérieur du mur Maria, le mur le plus éloigné, un immense titan de 60 mètres de haut. On l'appellera ensuite le titan colossal. Il fait une brèche dans le mur à coups de pied et c'est le chaos. Les titans pénètrent dans l'enceinte, détruisent tout et dévorent les êtres humains. Car c'est leur grand kiff aux titans de manger des êtres humains. Pour info, on apprendra vite que c'est même pas pour se nourrir parce qu'ils n'ont pas de tube digestif et ils n'ont pas d'organes reproducteurs. Non, non, ils mangent des êtres humains, mais on ne sait pas pourquoi. Les humains se retranchent derrière les deux murs restants, le mur rose et le mur Sina, et tous les épisodes décrivent la résistance des humains, qui ont un niveau technologique assez médiéval, hein, attention. Ils se déplacent sur des chevaux, ils ont des épées, et ils ont des drôles de systèmes au gaz avec des grappins pour se déplacer un peu comme Daredevil dans Marvel.
D'accord.
Leur but, c'est de trancher la nuque des titans parce que c'est la seule façon de les tuer. Donc, c'est compliqué quand même.
Ouais.
Et tout ça, c'est un peu longuet. Et un peu répétitif. Arrivé vers l'épisode 15, je demande à mon fiston, dis donc, t'es sûr que ça va évoluer? Parce que là, je m'ennuie un peu quand même. Il me dit, patience, patience. Bon, ok, d'accord, je patiente. En plus, le héros, qui s'appelle Eren Yeager, est insupportable. Il hurle tout le temps, il est toujours en colère à vouloir détruire tous les titans qui ont tué sa mère. Au point que j'ai dû repasser en version française, tellement il me tapait sur le système. Parce que ça hurle un petit peu moins. Passe les saisons 1 et 2, et je ressens tout du long un malaise grandissant. Il y a quand même derrière les discours, les actions, tout un tas de valeurs un peu nauséabondes qui apparaissent de plus en plus clairement. Glorification du combat, soumission à l'autorité, soumission à la hiérarchie dans l'armée, glorification du sacrifice, glorification de la violence rédemptrice, inégalité naturelle entre les faibles et les forts. Bon, question de génération peut-être, mais moi ça me crispe. Et c'est la chaîne YouTube Patchwork qui va prononcer le mot interdit, mais qui me brûle les lèvres. Dis donc, ça serait pas une série un peu fasciste sur les bords, cette attaque des titans?
Ouais, les valeurs sont pas terribles.
Ouais. Et soudain, aux environs de l'épisode 25, bref, au début de la troisième saison, tout change quasiment d'un épisode à l'autre. On découvre que les titans sont des êtres humains, que certains peuvent se changer d'humain en titan et inversement à volonté. Le héros Eren Yeager lui-même peut se changer en titan. Et on découvre que les humains qui se défendent sont infiltrés par des humains titans qui cherchent à détruire leur civilisation. Et on découvre aussi que des humains de leur propre civilisation, en tête l'Église et le roi, cachent des choses et savent des choses qu'ils cachent au peuple. Bref, on sort d'une vision binaire pour aller vers une vision de plus en plus complexe du monde. La séparation entre les bons et les mauvais n'est plus si claire, et le mystère du rôle des titans devient absolument passionnant. Pour autant, les relents d'idéologie fasciste n'ont pas complètement disparu. Il y a quand même une prise de pouvoir des militaires face au pouvoir supposé corrompu, ça sent quand même bien tout ce qu'on a vu tout au long du XXe siècle. Plus la saison 3 avance, plus on reçoit un déluge de révélations, avec un pic dramatique sur les derniers épisodes, 55 à 59, sur lesquels je vais m'arrêter un peu. Nous sommes avec le bataillon d'exploration où combattent les trois héros, Eren, Armin et Mikasa, dans la reconquête du mur Maria, le fameux mur qui a été perdu au tout début de la série. Et le bataillon tombe dans un piège concocté par les ennemis titans humains. Dont ils savent d'ailleurs que les membres les plus importants de ces ennemis sont leurs compagnons d'armes, faisaient partie de la même équipe qu'eux, qui se sont infiltrés dans leur rang dès leur plus jeune âge, dans le but de les détruire. Le but de ses ennemis, en fait, c'est de capturer Eren, qui est le titan assaillant et le titan primordial à la fois, j'explique pas. Bref, il est la clé de cette guerre.
D'accord.
Les scènes de combat dans ces épisodes-là, 55 à 59, constituent un sommet de la série. Je rappelle ici qu'il s'agit d'une série japonaise, et c'est pas pour rien. L'ampleur des destructions infligées par le titan colossal, je vous rappelle qu'il fait 60 mètres de haut, en fait, il a une caractéristique en plus. Il est capable de faire monter sa température et de déclencher des explosions monumentales. Ces explosions prennent littéralement le spectateur à la gorge, et clairement, à ce moment-là, l'écho d'Hiroshima devient omniprésent. Dans les images, on a Hiroshima en pleine figure. Le sacrifice du bataillon d'exploration atteint aussi un niveau vraiment bouleversant. Même si on reste sur les thématiques douteuses, on ne peut plus à ce moment de la série faire autrement qu'être totalement en empathie avec les héros. Mais c'est le dernier épisode qui sera le plus marquant. Il révèle tout ce qui se cache derrière ces mystères. La civilisation qui se défend contre les titans n'est pas tout ce qui reste de l'humanité. C'est juste une île dénommée Paradis. Comme le Japon, une île, où se sont réfugiés depuis un siècle un peuple qui s'appelle les Eldiens. Pourquoi ? Ils se sont réfugiés par culpabilité. Parce que la réalité, c'est qu'on a effacé la mémoire des Eldiens, mais qu'en fait, pendant 2000 ans, ce peuple, auquel appartiennent les héros, a persécuté le reste du monde. Car ce sont les Eldiens qui, alors, étaient possesseurs des titans. Mais le peuple qu'ils ont persécuté pendant 2000 ans, qu'on appelle les Mars, pense que les Eldiens constitueront une menace tant qu'ils continueront d'exister. Et c'est pour ça que les Mars, qui contrôlent les titans maintenant, je n'explique pas pourquoi, tentent d'exterminer les Eldiens sur l'île de Paradis. La saison 3 se termine au bord de la mer que les trois héros ont toujours rêvé de découvrir, mais ils savent que de l'autre côté se trouvent les Mars bien décidés à les détruire. On en est là sur Netflix, la saison 4 va sortir début janvier. Le paradoxe, c'est que si elle a tardé à sortir, la saison 4, on connaît la fin de l'histoire grâce au manga, dont le dernier épisode est sorti il y a quelques mois. Et on sait que la suite prend un tour vertigineux, puisque la série va se placer autant du côté Mars que du côté Eldien. Et c'est tout le génie de cette série, c'est être parti d'une description bien binaire, les bons et les méchants, et de n'avoir pas cessé de troubler ce schéma initial, au point qu'on ne sait plus qui est dans le bon camp, à qui on doit s'identifier, les Eldiens ou les Mars. Tu te souviens, Mathieu, que j'ai parlé du héros Eren Yeager, qui est insupportable, il gueule tout le temps, il est toujours en colère, il veut toujours exterminer les titans.
Ouais.
Eh bien, il fera le choix dans la saison 4 de détruire 80% de l'humanité.
Ah ouais.
Et il y arrivera, malgré l'opposition de ses amis. Alors, je ne dévoile pas tout de la complexité absolument incroyable de l'histoire finale, mais à ce stade de ma chronique, il est temps de prendre du recul et de dire en quoi cette série valait qu'on s'y arrête. Et de se demander pourquoi elle parle autant à la jeunesse japonaise et à la jeunesse française, sans parler du reste du monde. Il y a d'abord le constat du côté séduisant de la voie fasciste, pour ces jeunes générations, le sacrifice, glorification, etc., qui me fait me demander, à moi le vieux machin, si l'histoire humaine n'est pas finalement faite de répétitions navrantes et perpétuelles. Mais en fait, ça me semble être un des constats désabusés du très jeune auteur de cette histoire, qui s'appelle Hajime Isayama. Pour lui, l'humanité ne sortira jamais du cycle de violence perpétuelle. Et même dans son histoire, même une fois les titans définitivement vaincus. Vision très sombre des êtres humains. Mais la richesse de cet animé est telle que beaucoup d'autres enseignements peuvent en être retirés. Sur le danger de l'oubli, qui amène certains jeunes commentateurs français de cette série à parler de la nécessité d'une sorte de devoir de mémoire. Sur les conséquences terribles du choix de ne baser ses décisions que sur ses colères, ses émotions, comme le fait Eren Yeager en permanence. Sur la nécessité vitale, à un moment ou à un autre, de tendre la main à l'ennemi pour construire la paix. Mais j'ai conscience, ici, que j'en retire les enseignements qui m'arrangent moi. Et ouais, la richesse de cet animé est telle que des enseignements bien différents pourraient émerger. Plus conformes, par exemple, avec le fameux prisme fasciste. La nécessité de sacrifier 80% de l'espèce humaine, par exemple, pour trouver un terme définitif à la malédiction des titans, eh bien, beaucoup de spectateurs, la trouvent tout à fait légitime.
D'accord.
Alors, comme message personnel du prof Patrick à cette jeune génération, je propose, Mathieu, avec ton aide, un extrait d'une toute autre série. Je parle d'une série qui s'appelle le Doctor Who. De quoi ça parle ? C'est l'histoire d'un extraterrestre qui voyage dans le temps et dans l'espace grâce à un vaisseau bizarre qui s'appelle le TARDIS, qui de l'extérieur ressemble à une cabine téléphonique anglaise. C'est une des plus vieilles séries de l'histoire de la télé. Elle a commencé en 64. Docteur Who a vécu une tragédie terrible. Il a vécu une guerre entre son peuple d'origine, les Gallifréens, et les Daleks qui les agressaient. Et les actions du docteur lui-même ont contribué à l'extinction de sa planète, l'extermination totale de son espèce. Il en a retiré depuis une vue intransigeante de la vie, un refus absolu de toute violence. On est au 7e épisode de la saison 9. on est dans une scène qui est entrée dans la légende, parce que toute la force du docteur y est concentrée. Ses valeurs, son vécu, son message. Deux personnes sont face à face, la représentante des humains et la représentante d'un groupe extraterrestre, terroriste entre guillemets. Les deux personnes ont la main sur un objet qui est, pour simplifier, le bouton nucléaire. Le docteur leur parle pour les convaincre de ne pas appuyer sur le bouton. On l'écoute en VO, parce que la VF est une horreur, et je vous donnerai ensuite la traduction. Je conseillerais à tout le monde de regarder, grâce au lien, l'intégralité du discours, car il vaut son pesant de cacahuètes.
So, let me ask you a question about this brave new world of yours. When you've killed all the bad guys, and when it's all perfect and just and fair, when you have finally got it exactly the way you want it, what are you going to do with the people like you? The troublemakers. How are you going to protect your glorious revolution from the next one?
We'll win.
Oh, will you? Well, maybe. Maybe you will win. But nobody wins for long. The wheel just keeps turning. So come on. Break the cycle. This is a scale model of war. Every war ever fought right there in front of you. Because it's always the same. When you fire that first shot, no matter how right you feel, you have no idea who's going to die. You don't know whose children are going to scream and burn. How many hearts will be broken? How many lives shattered? How much blood will spill until everybody does what they were always going to have to do from the very beginning? Sit down and talk!
Voilà, je traduis. Le docteur parle à l'extraterrestre et lui demande « Laissez-moi vous poser une question sur ce meilleur des mondes que vous annoncez. Quand vous aurez tué tous les méchants et que ça sera parfait, juste, équitable, quand vous aurez finalement tout fait exactement comme vous le voulez, qu'allez-vous faire des gens comme vous, les fauteurs de troubles? Comment allez-vous protéger votre glorieuse révolution de la révolution suivante ?» L'extraterrestre répond « Nous gagnerons. » « Oh vraiment ?» répond le docteur. « Peut-être. Peut-être que vous gagnerez. » Mais personne ne gagne à tous les coups. La roue continue à tourner. Alors brisez le cercle infernal. Un peu plus tard, le docteur reprend ceci. Il parle de cet instrument de mort, le bouton nucléaire, est un modèle réduit de la guerre. De toutes les guerres jamais menées, juste devant vous. Parce que c'est toujours la même chose. Quand vous allez tirer le premier coup, même si vous vous sentez dans votre bon droit, vous n'avez aucune idée de qui va mourir. Vous ne savez pas quel enfant va crier et brûler. Combien de cœurs vont être brisés. Combien de vies fracassées. Combien de sang sera versé jusqu'à ce que tout le monde finalement fasse ce que de toute façon ils auraient dû faire depuis le tout début, s'asseoir et parler. Voilà Mathieu, je dédie cette chronique à mes anciens étudiants de l'ESME de Lyon à qui j'avais fait cette promesse farfelue de parler de l'attaque des Titans.
Merci beaucoup. Générique de la série dont nous parlait aujourd'hui le prof Patrick, l'attaque des Titans, très pop culture aujourd'hui. On continue le programme de Ensemble sur Calade.
Alors, trouvez-moi une musique légère, spirituelle, subtile, dosée.
Le choix du disquaire.
Ensemble sur Calade.
Allez, une belle pépite, rien que pour les banlieusards.
Allez, on passe à la musique avec Pitch, notre disquaire. Comment vas-tu ?
Je vais super bien. Comme souvent le vendredi, je suis chez un confrère disquaire.
Ouais.
Voilà, je suis à Cytosphère, qui est rue de Cito à Paris.
D'accord. Ambiance parisienne aujourd'hui, très bien.
Voilà.
Et malgré tous tes voyages dans les différentes boutiques de disquaires à travers la France et ailleurs, tu arrives quand même à trouver le temps pour nous faire des petites sélections d'albums à écouter.
Ouais, tout à fait. Cette semaine, j'ai vu passer la réédition d'un album de Teddy Pendergrass.
Ouais.
Moi, j'ai la chance d'avoir un original, je ne sais plus quelle édition.
Mmh.
Et donc voilà, il vient de ressortir en pressage américain une petite represse. Donc l'album, il a un titre particulier. Je vais te le sortir en français. La traduction en français, c'est « La vie est une chanson qui vaut le coup d'être chantée ».
Ouais.
C'est le titre de cet album. Il y a des gros bangers dessus. Faut savoir que cet album, il y a quelques morceaux.
Qu'est-ce qu'un banger ?
Un banger, c'est un truc qui fait bang bang dans ta tête. ouais, un banger, c'est un gros classique, c'est vraiment un gros morceau.
D'accord.
Et un classique, on va dire. Et donc ouais, par exemple, ce LP est vraiment bien. Parlons de Teddy Pendergrass, c'est une super voix, c'est un super groove, soul, funk.
Ouais.
C'est juste la classe, quoi. Il a sorti plusieurs albums. Voilà, celui-là est trop bien. Il a été samplé dans le hip-hop énormément.
Ouais.
Cet album, il y a pas un seul morceau à jeter, tu vois, genre un morceau moyen, quoi. Tout l'album de A à Z est trop bien, quoi.
Ouais.
Exceptionnel. Voilà.
Il a commencé dans la fin des années 70, là, quand je vois la sortie de ses albums. Jusque dans la fin des années 90, j'ai l'impression.
Alors après, ça sortait moins en vinyle et tout, quoi.
Ouais.
Mais il est derrière des gros, gros hits. Hein. Je sais pas ce que tu as choisi comme morceau de cet album, mais il a sorti des tubes. C'était faut employer le mot tube. Il a vraiment sorti des tubes, des gros morceaux qu'on écoutait en discothèque, en club et tout. Les gens retiennent pas spécialement Teddy Pendergrass. Ils connaissent le morceau. Ah, j'adore cette chanson, mais tu vois. Et là, voilà, il faut appuyer. C'est Teddy Pendergrass, quoi.
Pour pas qu'on l'oublie. Et c'est vrai, moi j'étais étonné de pas le connaître parce que il a un son excellent, il a une super belle voix et c'est
suave,
très bon.
Suave, glamour.
Tout à fait.
C'est vrai.
Ouais. Je te propose qu'on l'écoute. Moi j'ai choisi un morceau parmi cet album, Love is a Song Worth Singing. J'ai choisi le morceau qui s'appelle Get Up, Get Down, Get Funky, Get Loose. J'aime bien ce qui est funky. Merci beaucoup, Pitch.
Ok, merci à toi.
À la semaine prochaine.
Allez, au plaisir.
What you come out here for?
Get up, get down, get funky, get loose, super titre. Teddy Pendergrass, c'est Peach qui nous a conseillé de l'écouter aujourd'hui, extrait de l'album Life is a Song Worth Singing. C'est avec ce morceau qu'on va se quitter. Je vous souhaite une excellente journée, un tout aussi bon week-end. Et puis je vous donne rendez-vous lundi à 12h12 pour une nouvelle émission d'Ensemble sur Calade. D'ici là, prenez bien soin de vous. Ciao, ciao.